Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Maria Pasquet, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Raphaël Rousseau. Porter son regard cette semaine sur le musicien de jazz et comédien John Lurie que vous avez pu entendre ou voir dans des films de Jarmusch ou de Lynch et que vous pouvez désormais, par la grâce d'Internet, entendre vous raconter une histoire pour vous endormir dans le podcast Bedtime Stories with Adam McKay, cinéaste et producteur qui a eu la bonne idée d'inviter Lurie à improviser une histoire d'un quart d'heure dans laquelle il est question à un moment d'un être qui ramasse les cigarettes inexistantes qu'une sorcière fait semblant de fumer. C'est imparfait et charmant, nous mettrons le lien sur le site pour ceux que cela intéresse et qui comprennent l'anglais. Notre invité s'est rêvé footballeur, a étudié les mathématiques et a envisagé une carrière de journaliste. En toute logique, il est devenu une légende de la chanson. L'homme est aussi surprenant qu'il aime surprendre. Il vient d'adapter en français 14 standards anglo-saxons, d'Elton John à Bob Dylan, en passant par Simply Red ou Neil Young. Le disque, réalisé et arrangé par Stéphane Escher et Rain O'Hand, est intitulé In French Please. Une tournée est en cours et je donnerai les dates de concert en fin d'émission pour le suspense.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Salvatore Adamo.
Bonjour Eva Pesser, bonjour à tous et à tous.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Oui, je me demande ce que j'aurais bien pu faire autrement. Donc, oui, voilà, si j'étais juste le début d'un regard de mon père envers ma mère, et si ça s'était arrêté là, voilà. Oui, je l'aurais peut-être regretté quand même. Oui.
Ça aurait fait une jolie chanson d'être simplement un regard.
Mais qui l'aurait chanté?
Bah oui, ça aurait été plus difficile pour l'écrire. Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
Ben là, elle devient, je dois dire, un peu schizophrénique, en fait. Parce que, comme mon nom, si on veut bien, l'indique, Salvatore Adamo, je suis deux. J'ai l'impression, maintenant, avec le temps, d'être un personnage public qui chante, mais qui a au premier rang l'autre personnage privé qui le guide un peu et qui le regarde et qui de temps en temps le corrige ou le remet à sa place. C'est Mitterrand qui disait il faut savoir être au balcon et pouvoir se voir passer dans la rue. C'est un peu ça.
Vous êtes sévère avec vous-même?
Plus que ne le sont les autres, des fois, oui. Bon, j'ai été élevé par les frères des écoles chrétiennes. En sixième moderne, il y avait même un des frères qui nous donnait encore des coups de règle sur les doigts.
Ah oui.
Le frère Macédone.
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 En parlant de nom, Salvatore Adamo, quand vous avez parlé de vous, vous avez dit Salvatore Adamo. Vous préférez que je dise Salvatore ou Salvatore?
Non, non, mais là, je faisais allusion au duo que je forme.
D'accord, oui, bien sûr. Oui. Donc il y a Salvatore et Salvatore.
Absolument, oui. Mais il faut continuer alors, Salvatore Adamo.
D'accord.
Oui.
Et moi, vous voulez que je m'adresse à vous comment?
Mais appelez-moi Salvatore, tout simplement.
Salvatore, d'accord, très bien. À vos débuts, je crois que vous étiez complexé par votre voix.
Oui, il n'y a pas longtemps que je ne le suis plus. Là, je commence même à avoir des compliments sur ma voix. C'est Stéphane Escher qui a osé dire que pour lui, j'ai la plus belle voix. Je ne pense pas que ça puisse aller jusque-là. Parce que, pour vous dire, j'étais au Chili en octobre et j'ai assisté à un spectacle sur Elvis Presley. On avait récupéré sa voix, des images de lui sur scène, on avait ajouté un orchestre symphonique, et c'était sa veuve Priscilla qui présentait. Et je me suis rendu compte, justement au moment où je parle de la voix, je la perds un peu, je me suis rendu compte de la beauté de sa voix.
Vous l'imitiez petit?
Je l'imitais dans la gestuelle, oui. C'est d'ailleurs à un trio improbable que je dois tout ce qui m'est arrivé, puisque il y a eu ma mère, son père et Elvis Presley, puisque ma mère m'avait surpris devant un miroir avec un balai en train de me déhancher à la Elvis Presley. Oui. Elle a écrit à son papa qui m'a envoyé une guitare. C'est pour ça que je disais, c'est le trio qui a compté pour moi.
Justement, Salvatore Adamo, la famille apparaît dans presque toutes vos réponses. Vous avez grandi avec de nombreux frères et sœurs. Quel est votre rapport à la solitude?
La solitude, quand elle est volontaire, de temps en temps, c'est une bonne chose. Quand elle vous est imposée, c'est la pire des souffrances. Oui.
Et ça vous arrive de la choisir, de vouloir être loin de votre famille? Parce qu'on vous voit souvent très entouré partout, tout le temps, dans le documentaire qui est en ce moment sur France Télévisions. Vous êtes toujours en groupe, presque, à part sur scène.
Mais en 1968...
Vous avez été seul.
Je suis allé 2 mois à Los Angeles pour être seul, si je peux dire. Parce que c'était vraiment le moment où j'étais dans l'actualité, on parlait beaucoup, beaucoup de moi. Et là, je voulais me retrouver pour me ressourcer un peu, pour écrire des chansons. Et j'en ai même profité pour m'inscrire à une école de musique, Sherman School of Music, à Los Angeles, donc. Et quand j'ai rencontré le professeur de piano, parce que je voulais prendre des leçons de piano, et surtout d'harmonie, il m'avait demandé ce que je voulais faire, quoi, pourquoi je voulais prendre des leçons. J'avais dit que j'étais journaliste. Et donc, je dis, mais j'aime bien chanter et j'aimerais bien pouvoir m'accompagner. Ah bon? Et me dit-il, chantez-moi quelque chose. Et il me dit quoi? Et je dis, Yesterday, The Beatles. Et je lui chante Yesterday. Et il me dit, hey man, you've got soul, you should sing. Et donc, 2 mois après, quand je suis rentré, je lui ai envoyé les 2 albums que j'avais déjà enregistrés. Et il m'a écrit, man, you've got me, tu m'as eu.
Ce qui vous donne envie de vous lever, Salvatore Adamo, c'est évidemment la famille encore qui revient, le fait de vous sentir bien, de le faire savoir à vos proches, vos enfants et vos petites filles, et à certains amis qui se font du souci pour vous, et aussi de savoir que vous avez un concert ce jour-là. Vous n'avez jamais ressenti de paresse un matin en vous disant « non, encore un concert ?»
Encore un concert, non. Parce que c'est un peu faillot ce que je vais dire. Ça reste une chance de pouvoir en faire. Mais de me dire, je reste au lit, je suis bien là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais pour vous dire, je vais pas le dénoncer, mais Jean-Jacques Goldman m'a dit que lui, après un concert, il dormait 14 heures. Mais c'est vraiment un effort qu'on n'imagine pas. Physique et aussi psychologique pour des timides comme nous. Moi, au début, mes premiers pas sur scène, je devais me faire une violence inouïe pour oser.
Comment faites-vous pour faire redescendre l'adrénaline après un concert?
Mais c'est ça un peu le paradoxe. On sort de scène avec les applaudissements dans les oreilles. Encore parfois, ils continuent alors qu'on est déjà dans la loge. Et puis d'un coup, on s'affaisse sur le siège. Et on n'a pas toujours quelqu'un avec qui partager ce qui vient de se passer. Donc... Je ne sais plus, ça me fait un immense plaisir, mais j'aimerais bien que quelqu'un comprenne ce que je viens de vivre vraiment.
Est-ce que peut-être que Salvatore le sait?
Oui.
Est-ce que la vie réelle est ennuyeuse en comparaison avec la scène?
Non, je n'oserais pas dire ça. La scène m'apporte un plus, m'apporte une communion qui m'est devenue indispensable et pratiquement vitale. Mais dans la vie, il y a tellement de belles choses, justement, voir ses enfants, sa femme, ses amis, sortir de mon métier, quoi, de temps en temps, entrer dans d'autres histoires, dans des films, écouter de la musique, voilà. Non, la vie n'est pas ennuyeuse. Je souhaite à tout le monde qu'elle ne le soit pas. Mais je comprends que pour certains, elle puisse être moins facile que la mienne. Et je dis aussi, je vis en faisant ce que j'aime. Et c'est un privilège extraordinaire et je le souhaite à tout le monde. Ce serait vraiment le monde parfait.
Salvatore Adamo, vous venez d'évoquer le secret de Goldman qui est de dormir 14 heures. Je sais que votre médecin vous a recommandé fortement de dormir. J'aimerais bien entendre les conseils pour dormir de Salvatore Adamo, c'est possible?
Vous en avez quelques-uns parce que j'ai beaucoup de mal à dormir de ces jours-ci. Non, c'est vrai. Mais maintenant, ma logopède, parce que j'ai eu une période d'aphonie, heureusement, dont je suis sorti, qui m'a dit que, imaginez qu'on est funambule sur un fil tendu au-dessus des chutes du Niagara, ça peut vous aider à dormir.
Ah oui?
J'ai essayé. Il me semble qu'une fois, je me suis endormi plus facilement, oui.
Ah oui?
Oui, essayez.
Ah, je vais essayer peut-être.
Prenez une perche pour l'équilibre quand même.
Oui, je risque de faire une crise d'angoisse avant même de commencer. Bon, Dans un instant, il sera entre autres question d'utopie, de Prévert, d'Hugo, de surréalisme, de Saint-Exupéry, de Cyrano de Bergerac, de Bruges, de Londres et de Sicile. Mais tout de suite, Salvatore Adamo, votre adaptation d'un morceau culte de 71 du groupe America.
Tout au début du voyage, je redécouvrais la vraie vie. Dans le ciel sans nuages, volaient des oiseaux de paradis. Je comprenais même les mouches, le sens de leur bourdonnement. Et une fleur à la bouche, j'étais redevenu enfant. Traverser le désert au dos d'un cheval son nom, et la mer sur une planche pour te demander pardon, et arriver devant toi t'entendre me dire non. Dans le désert j'ai même pu oublier ton nom. Na 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 na, je l'avais fait pour toi. Na 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 na, je le referai plus, crois-moi. Sur terre, j'ai retrouvé ta maison. J'ai vu de la lumière et j'ai entendu des sons. Je suis entré par derrière et arrivé au salon. Je t'ai trouvé debout sur l'immense talon. Il y avait des hommes partout, ils étaient tous à genoux. Que t'avaient-ils donc fait? Ils avaient une corde au cou. Pleuraient des rivières et te demandaient pardon. Et un livre à la main, tu leur faisais la leçon. Et j'ai compris qu'au fond il n'y avait plus de raison, ni de te supplier, ni de demander pardon. Et j'ai bu quelques bières et une bouteille de bonbons. Et j'ai même oublié ce que j'avais pu te faire comme mal. Et à la fin de la journée j'avais retrouvé le moral. Na 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 na, je l'avais fait pour. Na 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 na, je le ferai plus, crois-moi. Et je suis reparti sur mon cheval sans nom. J'ai retrouvé ma planche, j'ai retraversé la mer. Et finalement je me suis attaché au canasson, qui sans faire de manière m'avait sauvé de l'enfer. Sur ses quatre pattes, sur une planche, sur son dos un couillon. Alors je me suis décidé à lui choisir un nom. Et vous l'avez sans doute vu à la télévision, même que le président lui a donné la Légion. Il s'appelle, comment encore nous de nom.
Vous écoutez L'Embellie sur France Inter, nous sommes avec Salvatore Adamo, dont nous venons d'écouter l'adaptation française du titre A Horse With No Name du groupe America, Le Cheval Sans Nom, morceau figurant sur votre dernier album In French Please, dans lequel on trouve un petit livret qui accompagne l'album avec vos paroles, vos adaptations et des anecdotes sur les versions originales. Vous vous rappelez que votre premier répertoire de chansons était anglo-saxon, Salvatore Adamo. Est-ce que l'adaptation des textes fut aisée? Je crois que vous vous êtes autorisé quelques licences poétiques, vous dites jusqu'au délire parfois grâce à votre espièglerie.
Mais c'est le cas dans la chanson qu'on vient d'écouter. C'est celle dans laquelle j'ai le plus déliré, parce que la version originale dit qu'il a traversé le désert simplement pour oublier une dame qui lui avait causé du chagrin. Et moi, là, j'ai osé. Maintenant, en l'écoutant, je dis, mais j'ai osé écrire ça. Voilà. C'est mon côté surréaliste que j'ai de la Sicile et de la Belgique aussi. C'est le point commun de mes deux pays. Voilà, je suis italo-belge, quoi.
Alors, on va y revenir, justement, au surréalisme. Mais une question d'abord, avez-vous fait écouter l'une de vos adaptations aux interprètes anglo-saxons?
Je ne pense pas. qu'elle soit arrivée jusqu'à eux. Ça s'est arrêté à l'éditeur. J'avais même adapté The Boxer de Simon & Garfunkel et aussi une chanson magnifique de Joni Mitchell qui est Both Sides Now. Et on n'a pas eu l'autorisation à temps. Donc je ne pense pas, parce qu'en plus j'avais eu l'immense privilège de rencontrer Paul Simon il y a 4 ans, un jour d'anniversaire du mien. J'étais le voir en concert et il m'a reçu pendant une demi-heure dans sa loge. Et donc j'ose espérer que si on lui en avait parlé, il aurait peut-être poussé un peu pour qu'on donne l'autorisation plus tôt. J'espère.
« 1967, j'ai tant de rêves dans mes bagages, chantiez-vous alors, Salvatore Adamo ?» On aurait aussi pu mettre votre chanson « Un rêve » pour illustrer votre réponse au changement que vous aimeriez voir advenir dans la société. Je vous cite « J'aimerais en tant que rêveur et même utopiste que chacun puisse vivre en faisant ce qu'il aime comme moi je le fais. Ce serait un monde parfait. J'aimerais que chacun sur Terre ait son minimum vital et même un peu plus pour agrémenter sa vie d'un peu d'art qui ne soit pas réservé qu'aux plus chanceux. » Vous êtes un rêveur, vous vous décrivez comme romantique, mais vous dites tout de même qu'il est plus difficile aujourd'hui de rester romantique et rêveur.
C'est vrai que nous sommes assommés par de jour en jour, même avant la guerre en cours en Ukraine. Moi, ça, j'ai commencé à comprendre qu'on a changé de civilisation lors de la première guerre du Golfe, où on pouvait suivre la trajectoire d'un missile en direct. Je vous avoue, c'est pas pudique, mais j'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais où va-t-on? Et maintenant, dès qu'il y a un malheur sur Terre, on l'a en gros plan sur nos écrans. Donc, on ne peut pas continuer à vivre en ignorant tout ce qui se passe. Et voilà. Et il faut vraiment une sacrée dose d'indifférence pour se prétendre heureux et béat. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse?
Je vous en
prie. On a passé tout à l'heure, maintenant, j'ai tant de rêves dans mes bagages. C'est Alain Goraguer qui en avait fait l'arrangement et vient de nous quitter.
Oh.
Et c'est un arrangeur, c'était un géant. Il avait travaillé, il avait commencé avec Boris Vian. Puis il a fait Henri Salvador, Jean Ferrat, Gainsbourg. Et moi, il m'a fait des arrangements magnifiques. À tel point que quand je découvrais, parce que moi, je lui donnais une maquette à la guitare. Et quand j'arrivais au studio, j'entendais l'arrangement. J'avais tellement de frissons que j'avais du mal à faire la première prise.
Voilà. Oh, il en est beaucoup question d'ailleurs dans votre biographie, Salvatore Adamo, 50 ans de succès.
Oui.
Vous êtes impliqué pendant 20 ans avec l'UNICEF, dont vous avez été nommé ambassadeur. Vous êtes allé au Vietnam, au Kosovo, en Afghanistan. Encore l'enfance. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
Absolument. Et on m'a sollicité en 93. C'était juste le moment où je me demandais à quoi je servais vraiment. Nous, les saltimbanques, on apporte un peu de plaisir, on vend du vent. Et Julien Clerc a écrit une magnifique chanson qui s'appelle « Je veux chanter utile ». Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être utile plus concrètement. Et je me suis rendu compte, finalement, avec tout ce dont nous nous plaignons, des privilégiés que nous sommes par rapport à certains pays que j'ai visités, comme le Vietnam que vous avez cité, ou même l'affection entre enfants et parents était un luxe. Parce que pendant que les parents étaient obligés de travailler aux rizières, les enfants fuguaient et se retrouvaient captifs de réseaux que vous imaginez.
Salvatore Adamo, vous avez écrit des chansons concerné, car vous ne dites jamais engagé.
Voilà. Oui, social, j'ose le dire aussi.
Inch'Allah, on se bat toujours quelque part, tout le long du Mékong.
Oui, mais c'est parce que je, contrairement à ce que certains croient, je ne vis pas sur un nuage. Je sais, on en a parlé il y a quelques instants, tout ce qui se passe de par le monde. Et à un moment donné, c'est impossible d'y rester indifférent et de ne pas y faire allusion.
Quelle est la place du poète dans l'État?
Ça, je m'en fous.
parce que justement, je m'en balance complètement. Parce que autrefois, on appelait poète le rêveur, n'est-ce pas? Maintenant, toute famille a son poète, il y a le prince des poètes, les républiques de poètes. Moi, personnellement, je ne suis pas poète, comme on dit exactement. On m'a appelé comme ça. Je suis artisan, moi, j'écris ce qui me fait plaisir. J'écris pour faire plaisir à beaucoup, et pour en emmerder quelques-uns. Ça, d'accord, mais c'est la même chose. Mais j'écris parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire.
Jacques Prévert, au micro de Pierre Dumayet sur l'ORTF en 70. Le poète fait partie des artistes qui ont changé votre rapport au monde. Salvatore Adamo, et ce qui est drôle, c'est que dans votre biographie sur Spotify en anglais, m'a fait remarquer mon précieux collaborateur Arnaud Jamin, il est affirmé que vos influences résident entre autres, je cite, dans la musique de Prévert et d'Hugo.
Dans la musique des Verts, oui.
Oui. Mais alors parlons d'abord de Prévert.
Prévert, d'abord, c'est un professeur que j'ai beaucoup aimé, Jean-Marie Vermeulen, qui m'a conseillé de le lire, parce que j'étais chez les Frères des Écoles Chrétiennes et que Prévert était à l'index, donc on ne pourrait surtout pas dire qu'on lisait Prévert. Il m'a aussi guidé vers les surréalistes, Soupeau, Perret, Desnos. Et je dois dire qu'en écoutant ce que Prévert vient de dire, je suis rassuré du fait qu'il soit un vrai poète, parce qu'il a dit qu'il n'est pas poète. Et justement, un soir, je chantais à l'Olympia, j'étais dans ma loge, on frappe à ma porte, j'ouvre et je vois un monsieur que je ne connais pas, qui me donne sa carte de visite et me dit « un tel poète ». Voilà, pour moi...
Oui, c'était rédhibitoire.
Voilà, c'était rédhibitoire. Oui. Non, mais Prévert, il a osé traiter la poésie avec des mots tous les jours. Il a cassé l'alexandrin en tous les sens. Il a donné la parole à des gens, comme certains le pensent, de peu de valeur, et chacun s'exprime par les vers de Prévert. Et c'est d'une légèreté, surtout, et toujours, ça nous emmène dans un ailleurs où tout est possible, dans le bien.
Dans la sérénité du pâle crépuscule, la brute par moments pense, et sent qu'elle est sœur de la mystérieuse et profonde douceur. Il suffit qu'un éclair de grâce brille en elle, pour qu'elle soit égale à l'étoile éternelle. Le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, là, mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange, pour ne pas écraser un crapaud dans la fange, cet âne abject, souillé, meurtri sous le bâton, est plus saint que Socrate et plus grand que Platon.
1985, Alain Badiou lit la fin du poème Le Crapaud de Victor Hugo sur France Culture. Dans votre panthéon, Salvatore Adamo, on trouve aussi l'auteur de La Légende des Siècles et des Misérables, dont vous avez interprété sur un album l'un des personnages, Combeferre.
Oui, oui, il y a quelques années déjà. Oui, Victor Hugo, c'est un peu le Picasso de la poésie et de la littérature. Picasso a fait éclater la peinture en mille éclats. Il y a même des peintres qui ont bâti leur carrière sur un des styles de Picasso. Je vais pas donner des noms,
ah bon,
mais il y en a quelques-uns. Et par exemple, il y a le poème Les Djinns, où Hugo commence par des monosyllabiques, il termine par l'alexandrin, et petit à petit, il revient en monosyllabique. Attendez, ça faisait, je ne vais pas vous le dire tout, parce que mur, ville et port, asile de mort, mer grise ou brise, la brise tout dort. Dans la plaine n'est un bruit, c'est la laine de la nuit, et le brame comme une âme qu'une flamme toujours fuit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied danse, au bout d'un flot. La rumeur approche, l'école redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit, etc.
Bravo.
Non, mais ça, je l'ai ancré en moi depuis la fin de mes études, mais pour vous dire, la progression du monosyllabique jusqu'à l'alexandrin. C'est un génie, quoi.
Ah oui, ça, oui, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque.
Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez?
Moi?
Qu'a-t-il d'étonnant?
Votre grâce, on se trompe.
Est-il mollet ballant, monsieur, comme une trompe?
Mais du porter les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder?
J'avais.
Il vous dégoûte, alors?
Monsieur.
Malsaine vous semble sa couleur?
Monsieur.
Sa forme obscène?
Pas du tout.
Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule, petit, mon nez?
Oh là! Ciel énorme!
ferme mon nez.
1990, Gérard Depardieu interprète Cyrano de Bergerac dans le film de Jean-Paul Rapneau, adapté de la pièce éponyme d'Edmond Rostand. Que vous évoque ce personnage, Salvatore Adamo? Est-ce que vous vous identifiez à son romantisme?
Complètement. Et Rostand a donné les clés pour une vie. On peut tout trouver dans Cyrano de Bergerac. Il y a le rêve, il y a le drame, il y a l'amour du prochain, il y a l'amour de couple, il y a l'élégance, il y a la timidité, il y a l'abnégation. Il y a tout ça chez Rostand. Et bien sûr, une immense poésie. Voilà, c'est vraiment le voyage dans les étoiles avec lui. Que je trouve aussi dans Le Petit Prince, mais ça c'est plus un cliché de le dire, que moi je relis tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, chaque lustre, je trouve une autre nuance, une autre allusion.
C'est dans Cyrano de Bergerac que j'avais appris le mot sublunaire. C'est beau.
C'est magnifique.
Chère imagination, ce que j'aime surtout en toi, c'est que tu ne pardonnes pas. Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore. Je le crois propre à entretenir indéfiniment le vieux fanatisme humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée. À nous de ne pas en mésuser gravement, réduire l'imagination à l'esclavage, quand bien même il y irait de ce qu'on appelle grossièrement le bonheur, c'est se dérober à tout ce qu'on trouve au fond de soi de justice suprême.
Extrait du Manifeste du surréalisme d'André Breton, lu par Jean-François Revel en 68 sur France Culture, pour introduire un groupe qui a compté pour vous, qui avait grandi dans un pays qui l'a hautement célébré et enrichi, Salvatore Adamo, les surréalistes.
Oui, mais comme je vous disais aussi, en Belgique, où j'ai grandi, donc, comme le ciel est souvent bas et gris, on se met sur la pointe des pieds pour passer la tête par-dessus les nuages. Et ça donne des personnages magnifiques de simplicité, de délire. Et puis ça donne aussi une solidarité, une grande bienveillance. Et moi qui suis étranger, qui suis arrivé, maintenant je suis belge depuis le 30 septembre.
Oui, ça a duré quelques années cette naturalisation.
Oui, c'est parce que l'Italie n'acceptait pas que c'est les natifs d'Italie et la double nationalité. Et je ne voulais pas perdre la nationalité italienne par fidélité à mes parents. Et par gratitude, je voulais être belge, oui. Et donc, en Belgique, on a tout ça. C'est un pays, dès qu'il y a une émission ou une action pour lever des fonds, pour aider les gens répondent d'une façon mais unanime et on atteint des scores qui, proportionnellement à d'autres pays, sont magnifiques.
Le surréalisme, Salvatore Adamo, je crois que ça vous plaît aussi pour la fantaisie, l'absurde, la surprise, l'accident. Est-ce que vous avez déjà utilisé certains de leurs exercices pour écrire des chansons?
Oui, en effet. Il m'est arrivé sur un poème de Michaud où il disait qu'il était en train de dessiner une souris et qu'à la troisième patte, elle s'est enfuie. Moi, je l'ai utilisé dans une chanson qui s'intitule « J'ai tellement bu pour t'oublier ». Je me suis dessiné un cheval pour qu'il m'emporte loin de toi. Il me dit « Fou l'animal, à la troisième patte, il s'enfuyait sans moi ».
Oui, on frôle le Tex Avery presque.
Oui, c'est ça, exactement. Voilà, mes yeux s'exorbitent.
Vous lisez énormément, Salvatore Adamo, des livres sur...
Pas suffisamment.
C'est jamais suffisant, mais quand même, c'est pas mal. Des livres sur l'astrophysique, la neuropsychiatrie, la génétique, ça peut vous inspirer des chansons?
Oui, ça m'inspire, ça m'intrigue beaucoup, surtout. J'ai fait une chanson qui s'appelle « Je viens de plus loin », où je sens quelque chose de cosmique, comme nous tous. Bon, moi, par les mathématiques, j'ai aussi fait de la physique et tout, et l'astrophysique m'intéresse au point que tous les ans, en septembre, près de Grasse, à Moinsartou, j'ai ma maison de vacances à côté, je participe à des colloques, je suis dans le public, j'y ai chanté une fois juste pour mon plaisir et pour faire plaisir. Et donc il y a Cyril Nick qui vient, il y a André Brahi qui nous a quittés il y a 2 ans, l'astrophysicien, et qui raconte avec des mots tellement simples que tout le monde comprend. Et bon, quand on vous dit, est-ce que derrière le mur de Planck, on va trouver Dieu? Ouf, ben on se pose la question, quoi. Et vous savez ce qu'est une singularité en astrochimie?
Non, pas du tout.
C'est un point, je joue l'épée dans l'air, infinitésimal de 0,1 milliard de zéros, à partir duquel il pourrait y avoir un nouveau Big Bang. Vous imaginez ce qu'on est petit, en fait?
Oui, mais j'imagine pas, parce que ça ressemble à l'infini.
Les deux infinis de Pascal, oui.
Ah oui, Pascal, que nous saluons d'ailleurs au détour de cette émission.
Oui, voilà.
Vous lisez aussi Salvatore Adamo, Fante, Auster, Brötigam, Harrison, Calvino, Tabucchi, Buzzati. Les nouvelles de Buzzati, mais c'est formidable. Je suis contente, j'ai envie d'en parler avec vous.
Vous parlez de lui parce que vous savez quelque chose que je vais vous dire?
Non.
Parce que dans une interview en Italie,
oui,
on m'a demandé mes écrivains préférés et j'ai cité Buzzati. Et il l'avait entendu. Donc il m'avait envoyé son dernier ouvrage. C'était une adaptation d'Eurydice et Orphée qu'il avait mise en vers et pour laquelle il avait fait lui-même les dessins.
Oh, il dessinait merveilleusement bien.
Oui, voilà. Donc je l'ai rencontré en Italie et il m'a dit que si une idée me venait en lisant l'ouvrage qu'il m'avait envoyé, qu'il serait ravi. Et j'avais pensé en faire une comédie musicale parce que les textes étaient écrits en italien, j'avais plus qu'à les adapter. Et malheureusement, il est décédé juste avant. Mais ça a été pour moi aussi un auteur qui m'a donné des clés pour la vie. J'avais même écrit une chanson dont le titre, je ne sais plus dans lequel de ses romans, « De quoi as-tu peur, imbécile ?» C'est lui qui me l'avait suggéré. Et aussi une chanson qui s'appelle « Plus tard », dans laquelle je dis, j'ai un peu adapté ce qu'il avait dit, « Plus tard, beaucoup plus tard, quand je ferai l'appel de mes amis, de mes amours, qui me répondra du fond de leur absence ?» Eh
bien, je l'ignorais.
Ouais, Dino Buzzati.
Ah,
c'est un être d'une simplicité magnifique, vraiment.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter. The world is my own, find me in my zone. Listening to tunes on my phone, getting stoned. If your energy's right, we probably tie. If not, I'm happy alone. I don't come out of fear, keep my enemies near. Yeah, the devil's inside you, my dear. Connections I'm feeling, if not, keep it moving. If it ain't genuine, what we doing? I ain't in your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try be myself over nobody else as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Please don't try to hide what is rightfully mine from the skies. It's my own mind, I'll decide what resides and divides me inside. I said I got no fear, my only enemy's near. The demons inside you, let's make that real clear. We think that we know things, we got no idea. Only listen when it's easy to hear. I ain't in your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else as I battle these wars alone.
Green Tea Peng, le morceau Lose My Mind dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Salvatore Adamo, qui pour être armé dans l'existence, recommande le film de Roberto Benigni, La Vita è Bella, qui revient souvent dans l'émission, je vous laisse nous en parler.
Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y ai pensé. Mais cette façon que Roberto Benigni, dans le film, dont il veut cacher l'affreuse réalité à son fils dans... qui est dans toute son innocence et qui il arrive à le convaincre qu'il joue à la guerre. Et la dernière scène est déchirante. On emmène le père pour aller le fusiller. Et en passant, il voit la boîte, enfin, la petite case où est caché son fils. Il lui fait un petit signe en riant. Et on voit les yeux du fils qui s'allument de bonheur. Alors que le père, c'était déchirant. J'ai, toute proportion gardée, j'avais écrit une chanson dans les années 60 qui s'appelle Enfant mon ami. Et je m'adressais aussi à un petit garçon qui avait perdu son soldat de plomb. Et il dit, mais c'est pas la peine de pleurer, et il n'avait même pas de nom, et puis il va revenir, il n'est pas mort à la guerre, quel est l'imbécile qui t'a dit ça? Et voilà, c'est un peu aussi la négation de la guerre. La guerre n'est plus qu'une vieille fable, l'homme aujourd'hui n'est plus capable d'écraser la petite fleur de l'innocence.
Si, hélas.
Eh oui. Oui, malheureusement.
On reparle des enfants, Salvatore Adamo, qui sont si importants dans tout ce qui vous concerne. Et je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir. Et vous avez répondu « voir mes enfants heureux et partir dignement le plus tard possible ». Dans le documentaire sur vous qu'on peut voir sur France Télévisions, la prière, on apprend que la prière chez vous équivaut à embrasser les photos de vos enfants et petits-enfants soir et matin.
Et de mes parents. Voilà. Mes petites filles qui vivent à Londres, mes enfants que je ne voyais pas quand ils étaient petits, parce que moi j'étais toujours ailleurs. Maintenant ce sont eux qui sont toujours ailleurs. Et puis mes parents, parce que j'ai leurs photos et je les salue tous les matins, tous les soirs. C'est complètement naïf et innocent, mais j'assume, ça les fait vivre. Moi j'ai gardé cette impression parce que en fin de vie, mon père était plus souvent en Sicile qu'en Belgique, parce que j'avais pu lui offrir son rêve, qui était un restaurant dont il s'occupait. Et voilà, il était parti la tête basse, et c'était sa façon de revenir en vainqueur. Et donc, je m'imagine encore aujourd'hui que mon père est en Sicile, et que je le verrai la prochaine fois.
Salvatore Adamo, vous avez publié un roman qui s'appelle « Le souvenir du bonheur est encore du bonheur ». Quand vous vous efforcez de vous rappeler de ressouvenirs, c'est toujours aussi agréable que lorsque vous les avez vécus, ou parfois ça charrie du spleen, parce que se pencher sur les absents, sur les disparus, ça peut charrier du spleen aussi.
Oui, pour vous parler de ce roman, le titre originel en était « Et paisible coule la haine ». Parce que moi j'ai vécu à Jemappe, qui est au confluent de deux rivières, la haine et la trouille, je n'invente rien.
La haine et la trouille.
Absolument. Et donc j'ai même fait une chanson qui s'appelle « Le ruisseau de mon enfance ». Sachez, ça va peut-être dépoétiser, mais qui s'appelait « La haine et la trouille ». Et donc quand j'ai présenté le manuscrit à l'éditeur, que je peux citer ou pas, je ne sais pas.
Bien sûr.
C'est Albin Michel, oui. Et ils ont aimé ce que je racontais, mais ils trouvaient que le titre était trop dur. Donc c'est devenu « Le souvenir du bonheur est encore du bonheur ». Mais c'est quand même une histoire dans laquelle je suis assistant croque-mort,
oui.
Où il y a beaucoup d'humour noir, ça me vient de la Sicile, et il y a plein de scènes cocasses. Et bien sûr, j'en profite pour raconter une partie de mon enfance et adolescence dans le milieu des travailleurs de fond à la mine, où il y a eu beaucoup, beaucoup de drames, et même dans la famille. Je ne veux pas m'apesantir dessus, mais il y a eu des choses inimaginables qui sont arrivées. Des coups du sort, des coups du destin terribles. Des morts le premier jour de travail parce qu'on s'est trompé de porte et qu'on est tombé dans l'ascenseur. Des choses comme ça. Il y en avait plein dans ma famille. Mais voilà, mais j'ai essayé de saupoudrer tout ça d'humour quand je pouvais me le permettre.
Qu'est-ce que vous gardez, Salvatore Adamo, de votre enfance dans le monde des ouvriers mineurs du Hainaut?
Je gardais cette solidarité et cette angoisse quand l'espèce de cloche, le tocsin, parce que la cité de Baraguement était contiguë à la mine. Donc il y avait cette cloche qui résonnait quand le malheur avait frappé, quoi. Et tout le monde sortait, les enfants aussi, et pendant un temps infini, on attendait de savoir sur qui le malheur était tombé. Et en contrepartie, il y avait cette solidarité, ce respect, et le respect de la dignité de l'autre. Et je me souviens d'un moment où un voisin était algérien, alors qu'on était pratiquement tous italiens. Et un jour, on l'a vu menotté, embarqué par la police, simplement parce qu'il n'avait pas obtenu le permis de séjour. Or, cette personne ne m'avait fait que du bien. C'est la seule qui parlait un peu français et qui parfois m'aidait dans mes devoirs. Et toute la cité devant sa porte, encore une fois, se demandant comment on avait osé emporter un homme si bon, quoi.
Aïe, Marique, Marique, je t'aimais tant, entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand.
Le morceau Marique de Jacques Brel, qui fut votre ami, Salvatore Adamo, pour introduire ce que vous recommandez de beau aux auditeurs, d'aller se promener tôt le matin dans Bruges. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui y règne ?
J'ai eu... En fait, je ne suis pas un lève-tôt du tout. Au contraire, je suis en perpétuel décalage horaire. Je me couche à 3 heures. Je me lève à midi, 1 heure, je l'avoue. Mais cette fois-là, pour les besoins des photos pour une pochette de disque, j'étais à Bruges à 7 heures du matin. Et je ne l'ai pas regretté parce que c'était irréel. Se promener le long des canaux et puis, à un moment donné, voir une béguine du deuxième étage de sa fenêtre avec la coiffe, me faire signe de monter, me proposer un café. J'étais revenu 300 ans en arrière, vraiment. Et donc, plus tôt on y va, moins il y a de monde dans les rues.
Ça, je vous ai déjà entendu prononcer des mots en néerlandais, Salvatore Adamo. Vous chantez dans tant de langues, portugais, espagnol, allemand, coréen, arménien, japonais. Est-ce que ça vous arrive de vous emmêler les pinceaux d'une version d'une chanson à une autre ?
Écoutez, une des premières fois que je suis passé à l'Olympia, je rentrais de Turquie, où j'avais chanté « Tombe la neige » en turc. Et j'avais dormi très très peu. Et donc, sur scène à l'Olympia, au moment où j'entame « Tombe la neige », je pars en turc. Voilà, j'ai fait arrêter mes musiciens. Alors, ce qui m'est arrivé, toujours à propos de « Tombe la neige », c'est que la première fois que j'ai chanté à Tokyo, en fait, mon but était d'émouvoir les gens quand même, à un moment donné, la salle éclate de rire. Donc, quel est le réflexe dans ces cas-là ? On se regarde tout de suite du côté du pantalon, si tout est en ordre. Et oui, tout était en ordre, mais ça va. Les rires se sont arrêtés, j'ai terminé ma chanson. Et une fois dans ma loge, j'ai demandé à l'interprète, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai dit qui les a fait rire ? Elle dit, non, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire. Elle n'a pas osé me dire. Et il y a 4 ou 5 ans, je me promenais près du studio d'enregistrement rue Washington, et je tombe sur une... J'aime pas le mot fan, parce qu'il vient de fanatique. Mais enfin, une dame qui écoute mes chansons depuis longtemps, japonaise, qui s'est installée à Paris. Et je la croise, et je dis, Yoko, est-ce que vous oserez me dire, enfin, ce que j'ai pu dire de travers sur scène à Tokyo dans Tombe la neige ? Elle s'est un peu francisée, si j'ose dire. Elle n'avait plus cette timidité. Mais écoutez, vous avez dit, là où vous dites l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Mais j'ose même pas le dire moi-même.
Ah, si.
Toute la nuit, j'ai joué avec l'oiseau. Voilà. Et ça a fait éclater de rire.
Oui, d'accord, dans les plusieurs sens qu'on peut y déceler.
Pardon.
Non.
Pardon les auditeurs, pardon les auditrices.
Salvatore Adamo, on arrive à l'engagement de fin d'émission. Pour vous, ce sera 2 voyages, un à Londres et l'autre en Sicile.
Oui, je m'étais promis avec l'âge de consacrer plus de temps à mes enfants et maintenant à mes petites filles. Et les mois passent, et comme le dit le livre, les jours, les mois, pas les années, heureusement. Et donc, dès que j'ai un peu de temps disponible, mon épouse a la chance d'y aller. Moi, j'irai à Pâques, j'espère. Voilà. Et voilà, c'est mes petits soleils. Elles font de moi ce qu'elles veulent. Elles me plient en 4. Elles me cachent dans les armoires. On joue à cache-cache. Elles savent où je suis, mais elles font semblant de ne pas le savoir. Et elles me laissent souffrir dans l'armoire. Je suis plié en quatre.
Voilà. Merci beaucoup, Salvatore Adamo, d'être venu.
Merci à vous, Eva. Merci.
Votre album In French Please est sorti le 27 janvier chez Panthéon Universal. Vous serez en concert le 1er avril à Vannes, le 25 mai à Ostende en Belgique, le 31 mai à Bordeaux, le 2 juin à Biarritz, le 4 juillet à Saint-Malo-du-Bois, le 8 octobre à Toulouse et le 18 octobre au Grand Rex à Paris. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site, nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez l'imperturbabilité d'un nénuphar à pantalon fuselé. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.